6h57, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier.
Le rappeur Booba dans l'actualité ce matin, alors qu'il est toujours chez lui, confiné à Miami, et qu'il se mobilise contre le coronavirus dans une émission Instagram appelée le Corona Time. C'est clairement un des artistes les plus mobilisés. D'ailleurs, vous vous en souvenez certainement, on l'avait reçu sur Europe 1 en exclusivité. C'était le 31 mars dernier, en plein confinement. Chanter, c'est bien, sauver des vies, c'est mieux, me disait-il alors. Et on parlait des invités de son émission.
Ah, le but, c'est pas d'avoir de personnalité, mais de gens utiles et de gens qui font partie du combat, comme des infirmières, des médecins. L'objectif, c'est d'être utile et de donner la parole aux gens concernés, compétents et qui peuvent nous aider dans cette crise.
Et l'hommage se poursuit. Booba va même un peu plus loin pour ses personnels soignants. Il va produire des masques. Le rappeur Booba a eu la bonne idée de recycler les tissus inutilisés de la première collection de sa marque Disconnected. Tissus inutilisés, des chutes, il s'en sert pour fabriquer des masques et pour les offrir au personnel hospitalier.
Obéir aux hommes, même si mes paroles pour les menottes sont plaquées au sol. J'en bats pas les couilles d'avoir de bonnes notes. Peu d'élus dans mon milieu, des attaquants peu déliés dans ma banlieue. Mais là ils font d'humeur à mon sol.
Alors je vous le rappelle, Corona Time sur Instagram, c'est l'émission de Booba sur le coronavirus. Et puis sur Europe1.fr, vous retrouverez l'échange entre confinés avec Booba, avec nos auditeurs sur la radio ouverte. Il nous avait accordé une interview exclusive. 6h58 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et vous dire que... ben voilà, il fera beau. Il fera beau sur toute la France. Alors retrouvons le sourire, chers amis. Ou si vous l'avez perdu, vous allez le retrouver. Sinon, vous le garderez, vous le conserverez. C'est une journée idyllique à bien des égards, je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il ne fera pas trop chaud, il ne fera pas trop frais. Et mais quand même, je voudrais insister sur le congé de l'Ascension. Parce que j'ai entendu une auditrice qui disait bah oui, il va être beau, il va être beau. Bon, alors il va être très beau demain, ça, je dis, pas de problème. Aujourd'hui, il fera beau, hein, j'insiste pas. Demain, il sera également très beau et très chaud. Ce sera la journée la plus chaude. Et puis vendredi, ça va se gâter hein, quand même sur la moitié nord, avec parfois des petites pluies près de la Manche, avec un ciel voilé, etc. sur la moitié nord. Mais sur la moitié sud, ça ira à peu près. Et puis samedi, ce sera humide pratiquement partout, à un moment ou l'autre de la journée, avec même des orages dans les régions de l'Est. Bon, alors, il va falloir faire avec. Et dimanche, retour en force de l'anticyclone. Alors, l'anticyclone revient à une puissance, à une rapidité. Franchement, on a rarement vu ça. Et nous allons avoir dimanche, lundi, mardi, mercredi, des périodes extrêmement sympathiques. Alors, simplement deux jours de parenthèse. Malheureusement, ils tombent ces deux jours pendant le congé de l'Ascension.
Ouais, c'est deux jours de parenthèse, mais ça tombe en plein week-end, quoi. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1. Bonjour, Hélène Zélani.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 7h.
Bien évidemment, on va bannir les activités classiques d'une campagne, à savoir porte-à-porte, distribution sur les marchés, rencontres avec les habitants.
Dans les quelques 5000 communes où il y aura un second tour, la campagne ne ressemblera à aucune autre second tour des municipales qui pourrait être organisée dès la fin juin. Tester, tracer, isoler, c'est la doctrine qui doit permettre de venir à bout de la pandémie. Le test crucial au moindre doute.
Se faire tester au moindre doute, c'est entrer dans un parcours de prise en charge médicale qui permettra au plus grand nombre d'être détecté à temps.
Nous appellerons d'ailleurs le président du syndicat des biologistes. Pour certains élèves de terminale, les jeux sont faits, leurs vœux d'orientation sont acceptés sur Parcoursup, mais beaucoup restent dans le doute et se sentent un peu largués en pleine campagne. Plus dure sera la chute dans l'industrie pour affronter la crise et éviter les licenciements. Patronat et syndicats demandent des aides au gouvernement.
L'idée, c'est de limiter l'impact sur le pouvoir d'achat des salariés par une compensation de la baisse de revenus. Et on demande évidemment que les entreprises garantissent l'emploi.
Et puis une Ligue 1 et une Ligue 2 de foot à 22 clubs sans descente. L'hypothèse sera discutée tout à l'heure à l'Assemblée Générale de la Ligue. Votre invité à 7h40, Mathieu.
Le secteur de la chimie sur le front, le groupe Solvay et sa patronne Ilham Kadri à 7h40. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Sébastien Bazin, c'est le PDG du groupe Accor. Il échangera avec vous sur la situation de l'hôtellerie-restauration, notamment du tourisme 3921 et le hashtag Radio Ouverte. 7h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
À quand le second tour des municipales? La question n'a pas fini d'agiter le monde politique. Édouard Philippe doit d'ailleurs en discuter tout à l'heure avec les chefs de parti. Le conseil scientifique a rendu un avis plutôt mitigé hier. Pourquoi pas en juin, mais dans des conditions sanitaires très strictes. Ce qui veut dire que les campagnes électorales vont prendre un tour assez particulier. Claudia Bertram.
s'il a lieu en juin, il va falloir faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination.
Un second tour qui ne ressemblerait en rien à une campagne normale. François Brière, le maire de Saint-Lô, dans la Manche, en a bien conscience.
S'il faut effectivement avoir masque, visière pour assurer la protection sanitaire la plus aboutie possible des uns des autres, évidemment, nous nous y adapterons.
Dans le viseur du Conseil scientifique, les meetings et les actions sur le terrain. Le candidat écologiste à Lyon, Grégory Doucet, arrivé en tête au premier tour, est prêt à adapter sa campagne.
Bien évidemment, on va bannir les activités classiques d'une campagne, à savoir porte-à-porte, distribution sur les marchés, rencontres avec les habitants. Donc on va mettre l'accent sur les réseaux sociaux, sur tous les moyens de communication plus virtuels.
Des campagnes masquées, virtuelles ou encore réduites au strict minimum, comme pour François Rebsamen en ballotage très favorable à Dijon.
Moi, je vais quasiment pas faire campagne. Je vais faire une lettre que je vais faire distribuer aux habitants pour leur dire, ben voilà, on reprend le cycle électoral pour le clore.
En temps normal, une campagne d'entre-deux tours dure une semaine. Une ministre confie, les candidats ne repartiraient donc pas de zéro.
Et hier soir, Emmanuel Macron s'est entretenu par visioconférence avec une vingtaine de maires, dont Anne Hidalgo pour Paris, Jean-Claude Gaudin pour Marseille ou Gérard Collomb pour Lyon. Tous veulent un second tour au plus vite, date évoquée le 28 juin.
Oui, non ou en attente. Les premières réponses de Parcoursup sont tombées hier soir pour les lycéens de terminale, des propositions d'études supérieures qui vont évoluer du jour au jour le jour.
Oui, encore faut-il réussir à faire son choix. Beaucoup se sentent livrés à eux-mêmes depuis l'arrêt des cours. Hélène Terzian a rencontré des ados un peu perdus.
C'est très flou en ce moment. On a le retour Parcoursup, mais c'est tout. On n'a pas de retour des professeurs, pas de retour scolaire.
Il n'y a qu'une seule chose dont il est à peu près sûr, c'est le droit qu'Alexandre étudiera l'an prochain. Mais quelle formation choisir, lui qui ne sait toujours pas s'il devra passer un concours pour les doubles licences.
Il y a des rumeurs comme quoi oui, on va en passer un, non, on va pas le passer, oui, c'est sur dossier. Enfin, il y a beaucoup de versions des choses et on ne sait pas si c'est clair et je ne sais même pas si je peux me fier en fait à un professeur vu la situation.
Avec les lycées fermés, difficile même par mail d'être épaulé. Marie, qui hésite entre le droit et le théâtre, a même eu son rendez-vous avec la conseillère d'orientation annulée.
Ça aurait été déjà un espèce de test de passion, de ce qu'on veut faire et surtout de nos capacités. Ça aurait pu éclaircir beaucoup de choses.
Anna sait, quant à elle, qu'elle ira en prépa artistique, mais la période l'empêche de choisir dans quel établissement.
En temps normal, j'aurais pu faire les démarches d'aller devant les lycées, éventuellement boire des cafés avec des étudiants, enfin en tout cas me renseigner un peu plus. C'est plus des établissements où il y a l'activité qu'il y avait avant, donc ça a un impact sur nos choix.
D'autant qu'il y a désormais un autre facteur à prendre en compte, les cours qui se feront à distance dans certaines universités à la rentrée.
Et puis des primes exceptionnelles seront octroyées aux professeurs les plus impliqués dans la gestion de la crise. Elles iront de 330 à 1000 euros.
Europe 1, il est 7h05.
Une campagne de dépistage massive organisée à partir de ce matin au commissariat central de Lille. Près d'un millier de fonctionnaires seront testés après la découverte de 3 cas de Covid-19. Dépistage qui va durer toute la semaine.
Se faire tester au moindre doute, c'est justement le message du professeur Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.
Oui, il compte sur le civisme de chacun, une piqûre de rappel sur les règles à respecter à la veille d'un week-end prolongé.
Le risque de reprise épidémique et la vitesse de propagation de l'épidémie ne sont liés qu'à nos comportements humains, qu'à nous. Dans ce contexte, se faire tester au moindre doute, c'est entrer dans un parcours de prise en charge médicale qui permettra au plus grand nombre d'être détecté vite, d'être détecté à temps. C'est aussi permettre d'identifier efficacement ceux qui, dans nos entourages, parmi nos proches, risqueraient de contracter le virus et éventuellement de développer une forme grave.
Le professeur Salomon avec Roman Hockey. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les personnels soignants pourraient bénéficier de tests sérologiques, donc par prise de sang, dès la semaine prochaine pour connaître leur état d'immunité.
Bonjour François Blanchecotte.
Bonjour.
Merci d'être l'invité d'Europe 1 ce matin. Vous êtes le président du syndicat des biologistes et vous étiez des dernières réunions au ministère de la Santé. Quand on parle de tests réservés aux professionnels de santé, ça vise qui précisément? Uniquement le personnel hospitalier ou est-ce qu'on élargit?
Non, l'arrêté qui va sortir au journal officiel va étendre les tests à beaucoup plus d'autres personnes. En fait, il y aura cette annonce du ministre qu'elle nous avons eue au téléphone jeudi après-midi. Ça va étendre aux gens qui ont des indications bien précises. C'est-à-dire que quand vous avez des symptômes, que vous avez une PCR négative, on invitera le patient à venir faire un test sérologique. Donc vous allez avoir toutes les indications que recommande l'HAS sur cet arrêté.
Et en termes de remboursement par la Sécurité sociale, des tests sérologiques vont pouvoir être remboursés ?
Tout à fait. Le ministère de la Santé va publier, je dirais enfin, la liste des tests qui seront autorisés, mis au remboursement, avec un prix qui sera fixé par le gouvernement. Et sur ordonnance, tous ces tests seront remboursés.
Parce qu'on sait que les tests PCR hein, sont déjà remboursés, pas les sérologiques. Ça va vraiment changer la donne, là?
Oui, ça va changer la donne. Et puis en plus, le test, une fois qu'il sera mis au remboursement, les laboratoires de biologie médicale, si vous venez hors indication, à la limite sans ordonnance, vous pourriez avoir ce test, mais au même prix.
Merci François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes. François Blanchecotte, merci d'avoir été en direct l'invité du journal de 7h d'Europe 1 ce matin.
On parlait remboursement des tests. Le déficit de la sécurité sociale devrait pulvériser tous les records cette année. Les recettes s'écroulent à cause de la crise sanitaire, évidemment. Le gouvernement veut donc mettre de l'ordre dans les comptes. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Oui, vous savez, la sécurité sociale est comme un compte en banque qui aurait un énorme découvert avec d'un côté des dépenses qui s'envolent, de l'autre des recettes qui s'écroule. En l'occurrence, ce découvert dépasse aujourd'hui les 50 milliards d'euros, l'équivalent d'une fois et demie le budget annuel de la Défense, pour vous donner une idée. Pour financer ce découvert, la Sécu s'endette donc, mais avec la crise du Covid, la situation devient intenable.
Et quelle est la solution ?
Alors, aujourd'hui, une partie des recettes de la CSG servent à rembourser la dette de la Sécu. S'il n'y avait pas eu la crise, d'ailleurs, toute la dette aurait été remboursée dans 4 ans. Et on aurait utilisé l'argent de la CSG pour financer la dépendance. C'était ça le plan. La crise du Covid a tout mis par terre. Les recettes de la CSG vont donc devoir être ponctionnées encore pendant des années. Du coup, quid de la dépendance ? Le gouvernement va proposer un deal. On étale la dette de la Sécu. On garde une petite partie de l'argent de la CSG, 2 milliards par an, pour financer la dépendance. Deux projets de loi vont être déposés pour ça. Reste à convaincre les partenaires sociaux. Ils craignent une chose, qu'il n'y ait en fait plus assez d'argent à l'avenir pour financer le grand âge. Vous le voyez, on n'a pas fini de payer toutes les conséquences de cette crise du Covid.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Les Échos qui annoncent ce matin que le remboursement du trou de la Sécu pourrait être repoussé de 2024 à 2033. Le gouvernement envisage d'ajouter plus de 130 milliards de dettes au déficit.
Europe 1. La fin du chômage partiel début juin pourrait être une catastrophe dans de nombreuses entreprises. Patronat et syndicats appellent le gouvernement à l'aide. On va en parler dans un tout petit instant.
Europe 1, il est 7h10, la suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Avec la reprise du travail depuis 10 jours, l'activité économique repart doucement. Mais certains secteurs industriels s'inquiètent du contre-coup.
Oui, et pour éviter une vague de licenciements, Emmanuel Dutheil, patronat et syndicat demandent un dispositif d'aide au gouvernement pour les mois à venir.
Le chômage partiel permet pour le moment de tenir, mais son arrêt le 1er juin va être un cataclysme. Voilà ce que l'on dit dans le monde de l'industrie. Dans l'aéronautique ou dans l'automobile, les carnets de commandes sont vides et rien ne laisse penser qu'ils vont se remplir dans les mois à venir. Du coup, pour éviter des milliers de licenciements, patronats et syndicats de l'industrie demandent la création d'un dispositif inédit. Hubert Mongron est le directeur général de l'UIMM, le patronat de l'industrie.
L'idée, c'est quoi ? C'est faire baisser le temps de travail jusqu'à 40% pendant la période de sous-activité et qu'on puisse le négocier par accord d'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on essaye, dans la mesure du possible, de limiter l'impact sur le pouvoir d'achat des salariés par une compensation de la baisse de revenus avec une aide de l'État et donc de l'UNEDIC. Et trois, on demande évidemment que les entreprises garantissent l'emploi pendant la durée de l'application de la convention.
Ce dispositif permettrait de garder les compétences pour pouvoir repartir quand les commandes arriveront. Du côté de l'exécutif, on examine cette proposition, mais pour le moment, aucune décision n'est prise.
Emmanuel Dutheil, vous évoquiez l'automobile. Renault va arrêter définitivement la production de voitures à Flins dans les Yvelines, site qui emploie 2600 salariés. Il sera reconverti. Selon nos informations, trois autres usines vont fermer leurs portes, Choisy-le-Roi, Dieppe et les Fonderies de Bretagne.
La réunion de la famille du football s'annonce assez houleuse cet après-midi. Assemblée générale de la Ligue. Les présidents de clubs vont retrouver les représentants des joueurs, des entraîneurs et des arbitres.
Par visioconférence, évidemment. On parlera notamment de l'épineuse question des droits télé de la saison prochaine, mais aussi d'un nouveau format de compétition, Cyril de la Morinerie.
Ce n'est pas à l'ordre du jour. Pourtant, la décision d'arrêter la Ligue 1 sera de nouveau discutée, car les recours se multiplient, notamment Damien, qui conteste sa relégation en Ligue 2. Certains espèrent un geste de solidarité. La solution pour calmer les esprits, une Ligue 1 et une Ligue 2 à 22 clubs sans descente. Mais pour le président de Rennes, Nicolas Olvec, cette idée n'est pas pertinente.
Le format des compétitions est sur 20 clubs et c'est difficile de changer ces formats, ça amène beaucoup de contraintes nouvelles, donc je comprends complètement leur position. Maintenant, j'essaie toujours de raisonner dans l'intérêt général, et je pense que l'intérêt général est de rester à 20.
On parlera aussi gros sous lors de cette Assemblée Générale, du prêt garanti par l'État, souscrit par la Ligue, et surtout des prochains droits télé qui doivent rapporter 400 millions d'euros supplémentaires. Cette manne pourrait être répartie à part égale entre chaque club de Ligue 1, mais les formations de Ligue 2 veulent aussi leur part du gâteau et réclament plus que les 110 millions d'euros prévus.
Et même les maires s'en mêlent. Ceux de Clermont, Troyes et Ajaccio demandent à la fédération que leur club qui évolue en Ligue 2 puisse disputer les barrages d'accession en Ligue 1.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Sachez que le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, sera l'invité du journal de 8h tout à l'heure en direct sur Europe 1, bien sûr. Il est 7h13. Très bon réveil à toutes et à tous.
Et à 7h13 sur Europe 1, toutes vos questions santé sur le hashtag Radio Ouverte et avec le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed.
Que vous écoutez hein, tous les jours de 15h à 16h, c'est sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Mais Jimmy Mohamed, tous les matins, juste après le journal de 7h, bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Pour ces questions que vous posez sur le hashtag Radio Ouverte, pour les malades guéris qui refont de la fièvre, est-ce qu'on peut craindre une deuxième contamination ?
Alors non, il semblerait qu'il n'y ait pas de deuxième infection à Covid et surtout, lorsque vous refaites de la température après avoir guéri, vous n'êtes plus contagieux d'après une étude du Centre de contrôle des maladies coréen. 285 patients qui ont eu le Covid, qui ont guéri de façon certaine car ils ont eu un test PCR négatif chez qui on a redétecté du virus après un nouveau prélèvement qui est donc redevenu positif, ils ont cherché à savoir s'il était possible que ces patients puissent contaminer d'autres personnes et pour cela, ils ont mis en culture les fragments de matériel génétique et absolument aucune culture n'est revenue positive. Il ne s'agit donc pas d'une nouvelle infection virale contagieuse et étant donné qu'aucun cas de deuxième infection a été décrit dans la littérature scientifique, il est possible d'envisager que l'infection confère une immunité, même si évidemment il faut être encore prudent. Si on peut faire un parallèle, lors de l'épidémie de SRAS en 2003, le cousin du coronavirus, les anticorps neutralisant le virus, vous empêchant donc de retomber malade suite à une infection, peuvent être présents 9 à 17 ans après l'infection. Enfin voilà peut-être de bonnes nouvelles.
Merci beaucoup, peut-être. On est toujours prudent, évidemment. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qui répond à vos questions sur le hashtag Radio Ouverte. Il est 7h15.
Et sur Europe 1, on retrouve à présent Anissa Mbida pour l'innovation du jour.
Bonjour Anissa.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Après les boutons, les écrans tactiles et la commande vocale, vous nous annoncez une nouvelle façon de contrôler nos appareils. Ce sera avec des cordelettes qu'on triture et qu'on pince.
Je vous sens un petit peu incrédule. Mais vous allez
un peu sceptique, oui.
C'est très malin. Alors imaginez, vous écoutez de la musique avec un casque, vous voulez monter ou baisser le son. Eh bien, il suffit de tortiller le petit fil du casque dans un sens ou dans un autre. Vous voulez faire pause, vous pincez le fil, vous voulez faire piste précédente, piste suivante, et bien on glisse son doigt tout du long. Hein, vous serez quand même d'accord, c'est quand même beaucoup plus pratique que des tout petits boutons, un écran tactile ou pire, hein, la commande vocale.
Mais qu'est-ce que c'est au juste ? C'est un casque spécial ?
Non, pas seulement. Hein, c'est une technologie qui permet à des cordelettes ou des tissus d'envoyer des informations quand on les touche. Et pour ça, on ajoute des petits fils à l'intérieur et un récepteur tout au bout, ce qui permet de savoir comment la corde est triturée. Et les premiers usages, bien, vous l'avez dit, hein, ce sera comme télécommande sur les fils des casques audio. On ajoutera même une fibre optique dans le cordage hein, pour qu'il puisse changer de couleur quand on est déjà à fond ou bien quand on est déjà arrivé à la dernière piste.
Et si on préfère les casques sans fil ?
Ah ben, ils y ont pensé. Non, ils y ont pensé, On utiliserait les cordelettes, vous savez, celles qui pendent sur les sweatshirts aujourd'hui. Comme ça, on peut commander son casque avec un vêtement Bluetooth. C'est Google qui a mis cette technologie au point.
Le sweat à capuche avec les cordelettes. Ouais.
Exactement. Alors là, vous souriez, mais sérieusement, il va y avoir des usages beaucoup plus pratiques. Hein. Par exemple, on va le retrouver sur des lampes, on tire sur la cordelette pour allumer.
Et la bobinette chérera.
Non, ensuite on tourne la cordelette pour régler l'intensité et on change aussi de couleur comme ça en jouant sur la ficelle. C'est vraiment une nouvelle façon de commander les appareils et vous allez voir, il y a plein d'usages qui vont être inventés avec.
Bon, là je triture mon casque, mais pour l'instant c'est pas encore en place, ça ne marche pas. Anissa Mbida, l'innovation, merci beaucoup Anissa. Cela dit, je me moque de vous, mais ça me tente bien, moi, cette innovation.
Je
le casque, ouais, on va tester. Merci Anissa, il est 7h17.
Europe 1. les sportives, les grandes perdantes de la crise actuelle, l'inquiétude de Virginie Fulpin concernant le sort du sport féminin.
Mais juste avant, Axel de Tarlet, Le Monde bouge. À tout de suite sur Europe 1.
La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard, il est 7h18.
Et Axel de Tarlet qui nous a rejoint en studio. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Il nous a rejoint en studio, mais vous êtes à 2m50, 3 mètres de moi.
On respecte les gestes barrières.
Heureusement qu'elle est à vol
sans
d'oiseau.
Masque.
À vol d'oiseau, évidemment. Le monde d'après sera-t-il encore plus carboné? Ben non, normalement non, Axel. En Chine, la consommation de pétrole est repartie de plus belle. En France, les élus locaux veulent relancer au plus vite le trafic aérien et autoroutier.
Ben oui, vous savez, il y a les grandes paroles, hein, les envolées lyriques sur le monde d'après. Et puis, il y a la réalité pressante et ça n'est pas la même chose. Exemple, dans l'aérien, le gouvernement demande à Air France de supprimer les vols domestiques quand il y a un TGV en moins de 2h30, typiquement Paris-Bordeaux. Hein, pourquoi maintenir l'avion? Sauf que les élus locaux de Bordeaux, mais aussi la Chambre de commerce de Gironde, demandent le maintien absolu de cette liaison aérienne vers Orly. Il en va, explique-t-il, de l'attractivité de la région, des emplois, des usines. Pas d'avion, pas de business. Un peu plus à l'est, vous allez à Toulouse. Là, vous avez Carole Delga, la présidente de région, qui, elle, demande la gratuité des autoroutes pour permettre à tout le monde de partir en vacances cet été. Et c'est vrai que, comme l'essence n'est pas chère, on a tous envie de pousser le moteur en avant comme avant.
Je vois bien Axel de Tarlet qui pousse le moteur. Donc Axel, si j'ai bien compris, vous ne croyez pas à une reprise plus verte, à une nouvelle économie décarbonée dans ce qu'on a appelé le monde de demain?
Eh bien écoutez, on a un laboratoire, c'est la Chine. La Chine qui a 2 mois d'avance sur nous. Que se passe-t-il en Chine? La consommation de pétrole est repartie comme en 40, elle est même encore plus forte que l'an dernier à la même époque, comme une envie d'en profiter encore plus après des mois de privation. Donc oui, il est à craindre que cette chute historique des émissions de CO2 ne soit qu'une parenthèse. Pourtant, s'il est bien une chose que nous a montré cette épidémie, c'est bien que la nature est plus forte que nous, qu'elle peut terrasser notre économie, notre mode de vie. Et d'ailleurs, sans être un oiseau de mauvais augure, vous avez vu que les températures commencent à monter. On annonce plus de 30 degrés la semaine prochaine. Imaginez cet été une alliance coronavirus-canicule. L'horreur, car un nouveau confinement avec des températures caniculaires serait encore plus dur à supporter.
Vous nous avez rempli de joie, gay, hein. Plein de bonne humeur, plein de morale. Non, c'est pas gay,
désolé.
Mais il faut surveiller. Non, mais ne vous excusez pas. Évidemment qu'on va le raconter. Tiens, cette question des autoroutes, par exemple, pour l'été prochain, c'est une vraie question qui est posée par la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. On va en reparler. Merci beaucoup, Axel de Tarlet. Le monde bouge dans un sens ou dans l'autre. Hein. Axel, il est là pour le raconter. C'est pas de sa faute. Hein. C'est pas lui qui creuse pour chercher du pétrole. 7h21.
L'édito sport. On est avec Virginie Fulpin sur Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Et ce matin, Virginie, vous vous inquiétez pour le sport féminin. La crise actuelle ne doit pas ramener le sport féminin des années en arrière. Et pourtant, le risque est bien là.
Oui, elles sont celles qu'on ne voit pas pendant cette crise. Les sportives, les grandes oubliées de ce moment charnière. Partout, on se pose des questions sur ce que va devenir le sport, sur les adaptations nécessaires, sur le rôle qu'il doit jouer. Mais les sportives, ben, on n'en parle pas. Et oui, j'ai peur que le sport féminin ne soit une priorité que quand tout va bien, une priorité de façade, quoi. Et dès que les choses se compliquent, ben, on se replie sur la valeur refuge, le sport masculin, évidemment. Les sportives, on s'en occupera quand ça ira mieux. Je ne vois pas à quelle autre conclusion on peut arriver quand on regarde ce qui s'est passé dans le foot espagnol, par exemple. La Liga se pose 1000 questions pour savoir quand reprendre le championnat et comment, mais le championnat féminin, ça a été vite vu, hein. On arrête et puis c'est tout. Emballer, c'est peser, on va quand même pas s'encombrer de questions autour des filles. Alors je ne dis pas que le but était de reprendre au plus tôt, hein, surtout pas, mais le deux poids deux mesures est assez choquant. Je sais bien que les intérêts économiques ne sont pas du tout les mêmes, je suis pas naïve, mais du coup, si on ne s'intéresse qu'à la rentabilité à court terme, le sport féminin va replonger des années en arrière. Hein. On dirait le mythe de Sisyphe, vous savez, avec la Coupe du Monde féminine de football, on était presque arrivé en haut de la montagne avec notre rocher. Et là, la crise sanitaire est en train de faire dévaler le sport féminin tout en bas. C'est vraiment ça qu'on veut ?
Comment peut-on éviter, justement, de voir le sport féminin mis de côté ?
Il y a un travail à faire à plusieurs niveaux. D'abord, dans nos instances du sport. Les dirigeants sont rarement des dirigeantes. Et qu'on le veuille ou non, ça influe sur les priorités qu'on se donne. Ce serait peut-être le moment de réfléchir à un rééquilibrage. Ensuite, il y a l'organisation des clubs. Si on prend l'exemple du football, ce sont très souvent les clubs masculins qui ont créé une section féminine. Ça a beaucoup d'avantages. Ça permet aux sportifs de bénéficier des infrastructures et de l'organisation de clubs bien installés. Mais c'est parce qu'elles dépendent des clubs masculins que ces sections risquent aujourd'hui, quand ça va mal, d'être les premières à payer les pots cassé. En handball, par exemple, il y a des clubs féminins à part entière. C'est comme ça qu'ils se sont construits et ça leur offre une indépendance qui me semble intéressante à explorer. Des pistes, il y en a. Hein. Encore faudrait-il prendre la peine de s'y pencher et pas de faire comme si le sport féminin n'existait pas.
Merci beaucoup, Virginie Fulpin. D'accord ou pas, vous écoutez, vous réagissez et vous partagez l'édito sport. C'est tous les matins sur Europe 1, juste après 7h20. Très bon réveil.
Europe 1. Dans un instant, la météo et le journal de Jérôme Lacroix sur Europe 1. Il est 7h25, Mathieu Béliard.
Peut-on imaginer une campagne électorale pour clore ce printemps 2020 si bizarre? C'est la question. Très prudent, très vigilant, le conseil scientifique ne s'oppose pas à l'organisation du second tour des élections municipales à la fin du mois de juin, tout en demandant une nouvelle évaluation de la situation à l'approche du vote. Il y a 5000 communes dans lesquelles le premier tour n'avait pas été décisif. On sait aujourd'hui les débats qu'a suscité le maintien du scrutin juste avant le début du confinement, vous vous en souvenez, au mois de mars. Alors je vous pose la question. D'abord, est-ce que vous irez voter à la fin du mois de juin? On parle du 28. Irez-vous voter? Première question très simple, dites-le nous au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte, on va vous lire. Franchement, vous prenez la parole et puis vous allez nous raconter, est-ce que vous teniez peut-être un bureau de vote lors du premier tour? On sait qu'il y a eu des contaminations à ce moment-là. Est-ce que vous imaginez, vous, faire campagne dans ce contexte? Vous êtes peut-être sur une liste, organiser un tour de vote, dépouiller la question du municipal et du second tour en débat sur la Radio Ouverte entre 9h et 9h30. Vous le savez, la matinale est prolongée. Notez cet autre rendez-vous aussi à 8h15. Sonia Mabrouk reçoit Sébastien Bazin. C'est le PDG du groupe Accor. On sera concret ce matin. Quelles sont les ouvertures d'hôtels possibles? Quelles sont les réservations aussi? Est-ce que les Français se réveillent pour la saison estivale? Est-ce qu'ils commencent à se projeter? Professionnels comme futurs vacanciers, vous nous appelez ce matin. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite de la saison? Je sais que le mot confiant est peut-être un peu fort. Et est-ce que cette saison peut être sauvée? 39-21, le hashtag Radio Ouverte, vous serez en direct avec nous et surtout avec Sébastien Bazin. Figurez-vous qu'il fait partie par exemple de cette équipe de professionnels qui était en visioconférence avec le président de la République lorsqu'il s'agissait de l'hôtellerie-restauration. Vous avez des questions à lui poser, des témoignages à apporter sur l'antenne d'Europe 1. On vous attend, 39-21 et le hashtag Radio Ouverte. 7h27 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous. Laurent,
oui.
Bon, il fait beau, il va faire beau, mais entre les deux, c'est pas toujours ça, c'est ça?
Oui. Mais en fait, je suis plus inquiet par Axel de Tarlier. Hein. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Canicule plus Covid. Vous avez entendu tout à l'heure?
Ah non, mais canicule, c'est pas tout de suite.
Non, mais pour l'été. Il nous a mis canicule plus Covid.
Ça arrivera. D'ici au mois d'octobre, on va bien en avoir une de canicule, Laurent Cabrol.
Il est en pleine dépression. Il est temps que je revienne.
Vous savez ce qu'on va faire, Laurent? Vous revenez, vous allez faire Le Monde Bouge et Axel la météo.
Oui, vous
voulez qu'on joue aux chaises musicales?
Mais non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'étais à côté de lui. On est le bureau voisin. Maintenant, je suis parti, ça y est. Il est en pleine dépression. Alors, bref, tout ça pour dire que. La canicule pour l'été, je sais pas, pour l'instant c'est pas sur les cartes, hein, je le dis tout de suite, c'est bien sûr une perspective, mais ça n'est pas sur les cartes. Alors en ce qui concerne le congé de l'Ascension, c'est bien tout ce que vous avez résumé, à savoir demain très belle journée, vendredi ce sera moyen, parce que vraiment il fera pas beau près de la Manche, où ça deviendra presque automnal, et nous aurons un temps souvent humide près de l'Atlantique. Sur la moitié sud, ce sera pas trop mal. Mais à partir de samedi, là, c'est vraiment franchement mauvais, hein, avec un passage pluvieux et orageux. Et à partir de dimanche, l'anticyclone revient. Mais il revient de manière tellement spectaculaire que tout ce que nous aurons perdu en deux jours, nous allons le regagner en une journée. Et là, franchement, à partir de la semaine prochaine, eh bien, nous aurons du beau temps sec qui ne va pas faire plaisir aux agriculteurs qui ont encore besoin d'eau. Sur une grande partie de la France, l'arrosage a été suffisant, mais dans le nord-est, c'est encore très déficitaire. Voilà pour le congé de l'Ascension. Il est, allez, en deux temps ou à mi-temps. Deux jours bien, deux jours pas bien.
Mais c'est noté. Merci Laurent Cabrol, c'est noté. Et c'est complet la météo avec Laurent Cabrol, 7h29. Laissez-moi saluer Jérôme Lacroix qui vient de s'installer en studio. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il est presque 7h30, un nouveau journal sur Europe 1.
Les forces de sécurité intérieure seront sur les routes, mais pas seulement, également sur les plages, pour vérifier que la règle des 100 km est bien respectée.
Beau
temps plus pont de l'Ascension doit être inférieur ou égal à 100, l'équation du jour, les forces de l'ordre seront mobilisées pour veiller à ce que chacun résiste à la tentation d'une escapade hors département et à plus de 100 km de la maison. Des cas confirmés dans deux commissariats des Hauts-de-France, Arras et Lille, plus d'un millier de fonctionnaires vont être testés. Et puis la lutte pour un difficile consensus politique sur la date du deuxième tour du scrutin municipal. L'opposition de droite ne fera aucun cadeau à Emmanuel Macron, nous dira Mickaël Darmon. Votre invité après journal, Mathieu.
Ilham Kadri, elle est PDG du chimiste Solvay et elle sera en direct avec nous juste après ce journal. Il est 7h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Allez-vous céder à la tentation devant nous? Premier congé prolongé depuis le déconfinement pont de l'Ascension et il va faire beau. Alors, allez-vous briser la barrière des 100 km?
On va le rappeler, hein, sortir de votre département pour rejoindre une plage ou une maison de campagne ne constitue pas un motif impérieux. Attendez-vous à croiser des forces de l'ordre, notamment dans les départements du Sud. Sophie Élyséon, préfète de l'Aude.
Le week-end de l'Ascension n'est pas un motif dérogatoire de déplacement au-delà des 100 km à l'extérieur de son département. Ce week-end est encore plus long que le précédent et la météo est encore plus favorable. Donc évidemment, les forces de sécurité intérieure seront sur les routes, mais pas seulement, également sur les plages, pour vérifier que la règle des 100 km est bien respectée. Ce sera environ 150 gendarmes par jour. Sachez qu'il y aura des contrôles à l'aller comme au retour et qui démarreront dès mercredi. Alors je sais bien qu'il y a des petits malins ou des petites malines pourraient avoir effectivement des éléments pour justifier d'un lieu de résidence dans l'Aude. Je tiens à leur rappeler simplement que les gendarmes ou les policiers seront en capacité de vérifier que cette adresse est la même que celle présente sur la carte grise, par exemple. Si on prend la distance entre Toulouse, Bruissant, Narbonne, Le Cat ou Port-la-Nouvelle, on est de toute façon à plus de 130 km. On aura affaire là à un long week-end et à des déplacements sans doute plus importants. L'heure ne sera plus tellement à la pédagogie.
La préfète de l'Aude, Sophie Élyséon, jointe pour Europe 1 par Mathieu Bock. Bilan des décès liés au virus légèrement revu à la baisse hier, justement des données des EHPAD notamment. Il s'élève tout de même à 28 000 pour plus de 62 500 guéris.
Le coronavirus apparu dans deux commissariats du Nord et du Pas-de-Calais. À Arras, au moins deux cas confirmés. Une campagne de tests est lancée, même chose à Lille.
Test massif au commissariat central. Tout le personnel, près d'un millier de fonctionnaires, après que trois cas positifs ont été confirmés. Lionel Gougelot, dépistage généralisé et grosse logistique.
Le dispositif est d'une telle ampleur que pour cette campagne de dépistage, les infirmières du secteur libéral viendront renforcer les effectifs du laboratoire de virologie du CHU de Lille. Les tests se dérouleront à l'intérieur même du commissariat. Du policier de terrain aux officiers supérieurs en passant par les agents administratifs, chaque fonctionnaire sera prélevé au moyen d'un test nasopharyngé. Au total, près d'un millier de fonctionnaires donc concernés pour une opération qui devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Chaque résultat sera ensuite envoyé au médecin de famille du policier testé. En cas de test positif, celui-ci sera contacté par la brigade Covid de la caisse primaire d'assurance maladie qui l'incitera à s'isoler et à signaler les personnes susceptibles d'être des cas contacts qui à leur tour seront dépistées. Durant toute cette opération, les mesures de distanciation, port du masque seront renforcées au sein de l'hôtel de police. Même si cela complique les activités des services, cela permettra aussi de rassurer les personnels, dit-on au commissariat. Une campagne qui devrait en outre servir de répétition pour d'éventuels autres dépistages massifs organisés si besoin dans d'autres administrations. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
L'apparition de 8 nouveaux foyers de contamination dans le Grand Est, en Haute-Marne, Moselle, Bas-Rhin et dans la Meuse, 4 d'entre eux concernent des EHPAD.
Le gouvernement consulte pour trouver la bonne date du second tour du scrutin municipal. 5000 communes environ concernées, parmi lesquelles beaucoup de grandes villes. Aujourd'hui, Édouard Philippe demande l'avis des chefs de parti.
Après hier, l'avis très prudent du conseil scientifique qui ne s'avance pas sur une date. Peu après, Emmanuel Macron réunissait en visioconférence une vingtaine de maires de grandes villes, dont Anne Hidalgo, Gérard Collomb, François Baroin. Tous plaident pour un scrutin au plus vite. La date du 28 juin est évoquée.
Avec nous, Mickaël Darmon. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
On le comprend, Emmanuel Macron cherche un consensus politique. C'est compliqué de s'entendre, notamment avec la droite qui n'a pas vraiment envie de l'aider.
Ah oui, ça n'a pas envie de l'aider, c'est le moins que l'on puisse dire. Et le projet d'Emmanuel Macron de concorde nationale reste pour l'instant du domaine du rêve. Premier opposant au chef de l'État, Gérard Larcher, le président du Sénat, qui refuse un débat parlementaire sur la date du second tour des municipales et qui renvoie renvoie l'exécutif face à ses responsabilités. Le Sénat, à majorité de droite, qui s'apprête aussi à demander des comptes au gouvernement et à l'État également sur la manière dont la crise sanitaire a été gérée. Une commission d'enquête au Sénat est déjà sur pied, donc pas de cadeau à Emmanuel Macron. Hein. C'est l'état d'esprit que l'on retrouve à droite comme à gauche où les projets d'alliance en vue de la présidentielle s'organisent. Alors s'il est trop tôt, bien sûr, pour décider de l'issue de la bataille présidentielle qui s'annonce, une chose est certaine, la vitrification de la vie politique imposée par le macronisme depuis 2017 est aujourd'hui bel et bien terminée.
Michael Darmon le fait politique tous les jours dans la matinale d'Europe 1. Europe 1 vous l'annonçait il y a plusieurs semaines, il y aura bien des fermetures d'usines et des licenciements chez Renault Plan de Sauvetage, trois sites menacés selon nos informations, choisis le roi Dieppe et les fonderies de Bretagne.
Pas de fermeture de l'usine de Flins dans les Yvelines, mais un site reconverti. Les informations d'Emmanuel Duteil dans le journal de 8h tout à l'heure.
Europe 1, il est 7h35.
C'est un pan dramatique de notre histoire qui n'a, semble-t-il, pas encore livré tous ses secrets. Nous voulions vous parler ce matin de la découverte de ces chercheurs autrichiens. Ils ont retrouvé des objets du quotidien abandonnés par des prisonniers des camps d'Auschwitz 75 ans après la libération. Des couteaux, des fourchettes, des chaussures cachées dans un conduit de cheminée.
Des découvertes loin d'être anecdotiques, explique Jacques Fredge, directeur du mémorial de la Shoah.
Ce que cet événement met en lumière, c'est qu'il y a encore en effet des choses à apprendre. On sait à peu près tout de la grande histoire. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sera sans doute l'histoire des victimes. C'est l'histoire de ces photos, de ces documents, de ces objets qui nous diront quelque chose à chaque fois sur tel aspect de la vie quotidienne ou sur tel acte de résistance dans le camp ou sur tel fait de répression. C'est en quelque sorte les histoires individuelles qui contribuent finalement à écrire une histoire collective des victimes. Et je trouve ça fabuleux de savoir qu'il existe encore des objets à découvrir dans l'enceinte de ce camp. Ça va vraisemblablement pousser la direction du camp à imaginer peut-être des fouilles supplémentaires et à mieux investiguer.
Jacques Vretsch, directeur du mémorial de la Shoah, joint pour Europe 1 par Pierre Herbulot.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'était le journal de 7h30, une nouvelle édition. À 8h tout à l'heure, ce sera avec François Geffrier.
Europe 1. Il est 7h36, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, votre invité à suivre.
Ilham Kadri, c'est la PDG du groupe Solvay, le chimiste Solvay. Un chimiste face à la crise du coronavirus. Quelques points positifs, un chimiste ça peut s'adapter et organiser justement sa production pour aider l'industrie pharmaceutique. Mais beaucoup plus difficile quand on fournit aussi l'aéronautique et l'aérien, on va en parler dans un tout petit instant. Très bon réveil.
À 7h38, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 avec votre invité ce matin, Mathieu Béliard. Il s'agit de Ilham Kadri, PDG de Solvay.
Bonjour Ilham Kadri.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Un groupe de chimie face à la crise du coronavirus. On va essayer de comprendre avec vous finalement si vous êtes gagnant ou perdant de cette crise. Solvay, c'est 24 000 employés dans 64 pays, des usines sur les continents européens, asiatiques, américains et évidemment un coup d'arrêt avec le confinement généralisé. Alors d'abord, vous avez des milliers de salariés en télétravail, mais vos usines ont continué à fonctionner et à s'adapter à la demande, à la situation.
Oui, tout à fait Mathieu, et c'est ce qui est extraordinaire durant cette crise qui est sans précédent, c'est que la chimie en général a été reconnue comme essentielle. Donc nos usines ont continué de tourner de par le monde, comme nous avons vraiment des applications très très essentielles. Nous sommes non seulement dans vos voitures, les avions, les vélos électriques, les doubles vitrages, mais nous sommes dans la purification des eaux, de l'air, de la santé, de millions de patients qui souffrent d'insuffisance rénale utilisent nos produits, l'alimentaire par exemple.
Ilham Kadri, justement, on a parlé de l'adaptation et vous avez lancé de la production de gel hydroalcoolique, des emballages de produits pharmaceutiques, de sirop. Ça a été décidé par rapport à cette crise. Mais dans la chimie, et vous l'évoquiez, il n'y a pas que la pharmacie. Chez Solvay, vous prenez la crise de l'aéronautique ou de l'automobile de plein fouet.
Ah ben bien sûr. Bon, le groupe Solvay est un groupe très diversifié. Hein. Au premier trimestre, par exemple, nous avons eu une demande soutenue de nos marchés de la santé, des soins de la personne et des biens de consommation, de l'agrochimie, de l'alimentaire. Mais bien sûr, l'automobile, l'aéronautique, comme vous l'avez bien dit, le secteur du pétrole et du gaz souffre et nous souffrons avec nos clients. Donc voilà, c'est des vents contraires. Il faut bien manager ça. Il faut se préparer pour émerger plus fort.
Bon, simplement, il y a des licenciements massifs chez les compagnies aériennes. Le plan de restructuration dont on parlait dans nos journaux ce matin chez Renault. Est-ce que vous, vous allez fermer des sites, voire licencier en France ?
Alors, nous avons annoncé il y a quelques jours, la semaine dernière, ce n'est jamais une décision facile, le licenciement. Effectivement, une conséquence de l'aéronautique et l'aviation, et vous avez écouté probablement les déclarations des patrons d'Airbus et de Boeing, que la reprise dans le secteur prendra plusieurs années. Tout le monde agit aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a une business unit qui s'appelle Composite Matériel qui a l'intention de cesser deux activités industrielles. C'est aux États-Unis et au Royaume-Uni, la France n'est pas touchée.
La France ne sera pas touchée.
Dans les composites matériels, oui. Dans l'aéronautique, elle ne sera pas touchée aujourd'hui.
Mais dans le groupe Solvay ?
Parce
que vous avez plusieurs sites, vous l'avez dit, vous êtes diversifié, vous avez
Bien
plusieurs
sûr.
Sites sur le territoire français. Aujourd'hui, est-ce que certains de ces sites sont menacés ?
Alors, la France, aujourd'hui, c'est un pays très important pour Solvay. On a plus de 3700 personnes, 10 sites industriels, 2 sites tertiaires, 6 centres de recherche et de laboratoires. La France a toujours été une base industrielle. Plus de 70% de notre production est pour l'export. Et on regarde toujours la façon dont on doit devenir compétitive au niveau mondial, au niveau local. Bien sûr, l'année dernière, on a déjà aligné notre stratégie que j'avais lancée durant l'automne Grow avec le tissu industriel. Donc là, on avait annoncé des licenciements à peu près 350 nets dans le monde, dont une partie sera touchée en France, mais on est en discussion avec nos partenaires sociaux. Mais en gros, la France, on a des investissements aussi. On a doublé nos capacités de nos productions de vanilline naturelle, par exemple. On investit
Ce sont des arômes alimentaires que vous produisez aussi, si je ne dis pas de bêtises, vanilline alimentaire. Je vous suis là-dessus.
La vanilline naturelle, oui, c'est dans l'alimentaire. Nous investissons à Dombasle pour engager le groupe dans la transition énergétique, dans la sortie du charbon. Et nous maintenons, par exemple, une présence en Île-de-France à Aubervilliers.
On va y venir, justement, la transition énergétique. Mais d'abord, dans le journal du dimanche, vous disiez le week-end dernier, cette crise a réhabilité notre industrie et mis en lumière une chimie qui assainit, protège, et ce qui nous rend essentiel. C'est ça le challenge de demain pour vous, votre secteur, après la crise, la réhabilitation d'un secteur décrié ?
Peut-être, mais je veux dire, la chimie, vous savez, c'est comme la physique, les maths, la biochimie, c'est de la science. Elle est là au service de l'humanité.
C'est la science, d'accord, Ilham Kadri, la science chimie, je ne la décris pas, évidemment. Il y a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent ce matin. Mais cela dit, l'activité industrielle de chimie, elle pollue.
On fait partie du problème et de la solution. Les émissions de CO2 viennent de l'activité humaine, mais la solution, elle va venir de la science. Donc aujourd'hui, le groupe Solvay, par exemple, a sorti un programme de développement durable qui s'appelle Solvay One Planet, une planète, et qui va au-delà. Non seulement il s'aligne aux accords de Paris, mais aussi on a décidé de sortir du charbon là où on le pouvait, etc. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, vous l'avez dit, Mathieu, on a contribué aux communautés. Et on a fait des choses qu'on n'a jamais faites. Donc, à Clamcy et à Amel, en France, on a lancé la production de solutions, comme vous l'avez bien noté, hydroalcooliques. On a distribué 1 million de bouteilles de gel désinfecté. Nous n'avions jamais fait de gel auparavant. On fournissait des ingrédients. On fait des équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé. Voilà, donc la chimie sert, elle est importante. Elle est invisible, mais elle est dans l'eau, dans la purification de l'air, dans la santé, dans l'alimentaire.
Je voyais aussi, et j'en terminerai par là, Ilham Kadri, que vous avez un site qui travaille sur une molécule qui entre dans la composition d'un médicament qui est testé pour l'instant contre le coronavirus. Vous participez donc indirectement à cette course au traitement, course au vaccin que l'on peut observer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'intérieur sur cette compétition entre les entreprises de chimie et pharmaceutiques ?
Je peux pas vous dire grand chose, c'est un peu confidentiel et c'est dans les mains de nos clients, mais on a des substances actives qui sont dans des sirops antitussifs qui sont utilisés dans le cas d'infection.
Je pensais surtout peut-être à la pression que vous devez tous connaître en ce moment pour être le premier. Je parlais vraiment de la compétition, pas du contenu,
oui,
évidemment.
Mais c'est une compétition qui est bonne, qui est vertueuse, qui est excitante. Je veux dire, on veut tous trouver une solution aujourd'hui. Donc c'est un problème humain terrain, scientifique, médical. Nous, on est dans cette chaîne de valeur avec nos clients. Et voilà, on est dans le test du coronavirus, mais on est aussi dans l'un des médicaments potentiels ou des vaccins potentiels pour contre le virus. Et c'est une belle bataille humaine, globale, qui est à mener ensemble.
Merci, Ilham Kadri.
Merci.
Et je le souligne, j'ai préféré qu'on parle du contenu de votre travail, mais il y a quand même encore aujourd'hui trop peu de femmes à ces postes de responsabilité. Ravi de vous avoir accueilli ce matin avec vous. On écoute aussi Le Monde Changé, la PDG de Solvay, les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1. Il est 7h46.
Europe 1. À tout de suite avec Jean-Philippe Ballas, la chanteuse Keren Ann dans Periscope.
Avant de retrouver l'opinion de Nicolas Bétou, bien sûr. Très bon réveil. Europe 1.
Il est 7h49, vous écoutez Mathieu Bellière sur Europe 1.
Votre rendez-vous culture tous les matins sur Europe 1, c'est Périscope, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Elle a été l'une des artistes les plus suivies pendant le confinement. Ce matin, vous prenez des nouvelles de Keren Ann.
Oui, Keren Ann et la tribu, la communauté qui s'est créée autour d'elle. Vous entendez là les applaudissements? Bien, ce sont de petites vidéos que les internautes lui ont envoyées pour dire merci, tout simplement. Merci d'avoir joué tous les soirs chez elle devant son téléphone et merci d'avoir lu leurs messages pendant ces rendez-vous intimistes. This is why I always wonder.
I'm a pond full of regrets. Bonjour Keren Ann.
Bonjour.
Ça vous a fait quoi de découvrir cette vidéo ?
Ça m'a ému parce que quand on est sur scène, on voit les gens réagir, on ressent leur énergie. Donc le fait qu'ils m'aient envoyé des photos d'eux pendant qu'ils regardaient ou des petites vidéos, comment ils étaient assis pour regarder le live tous les soirs, de voir leur visage, de voir leur tête, de pouvoir mettre quelque chose de vivant sur un pseudo, ça m'a fait chaud au cœur, c'est sûr.
Alors Keren Ann, en même temps, il y a des artistes qui ne veulent pas forcément apparaître comme ça, sans artifice. Vous, on a l'impression que vous avez agi à l'instinct.
Totalement. Et le seul moyen pour que ça marche et qu'on puisse le faire tous les soirs, c'est que ça soit authentique. C'est-à-dire que si j'étais triste, j'essayais pas de le cacher. On a cette chance que, peu importe ce qui se passe, on se met au piano, on se met à la guitare et ça nous remet en état. Et là, c'était à nu. Là, c'était comme si j'étais dans mon salon avec des potes, face à face, avec une lumière pourrie, avec un son pourri, et on le fait quand même. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
J'ai l'impression que cette période de confinement, ça a été un peu comme un voyage finalement pour vous.
C'est un peu une tournée virtuelle, oui. Mais ça a permis justement de donner une voix à des personnes qui étaient soit seules, soit loin. Donc c'est devenu quelque chose qui était beaucoup plus grand que ce que j'avais espéré. Parfois, c'était des lettres à des confinés. Parfois, c'était des témoignages des gens dans les hôpitaux. Enfin, il y avait toutes sortes. Il y a une femme qui m'a écrit que ses enfants et son mari me détestent. Ils n'en peuvent plus ni de ma voix, ni de moi. Et je comprends, parce que ça peut être épuisant. Même moi, j'en avais marre de moi. Et certains soirs, j'en pouvais plus de moi. En fait, il faut se détacher totalement de son ego. Et j'adorais ces moments-là. Je m'en foutais s'ils me regardaient ou s'ils m'écoutaient. Je voulais qu'ils soient ensemble. Et moi, je suis dans un coin, je fais de la musique. Et puis voilà.
Merci beaucoup, Keren Ann.
Merci beaucoup, Jean-Philippe. Regarde la mer près du bateau,
juste derrière. Keren Ann et sa communauté qui s'est créée autour d'elle pendant le confinement.
53 lives, je crois, pendant le confinement. Elle a joué tous les soirs.
Keren Ann, bravo à elle et merci, Jean-Philippe Ballas. C'est bien aussi de, voilà, le retour après avec les fans, justement. Retour d'expérience, comme on dit.
Exactement.
Jean-Philippe Ballas, c'était Periscope. Il est 7h52.
Sur Europe 1, l'opinion de Nicolas Bétou.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Dans la très courte histoire de La République En Marche, la journée d'hier restera marquée d'une pierre noire. Le parti d'Emmanuel Macron a en effet perdu la majorité à l'Assemblée.
Eh oui, ils étaient 314 en sortant des élections législatives il y a 3 ans. Ils ne sont plus désormais que 288, soit
un de moins que la majorité absolue. C'est évidemment un mauvais signal pour ce jeune parti qui n'a cessé depuis son accession au pouvoir de perdre des éléments ou d'en exclure d'autres. Alors bien sûr, cette érosion accélérée est une conséquence directe de l'assemblage hétéroclite et de gauche et de droite des soutiens d'Emmanuel Macron. Bon, ça plus l'attrait de la victoire en 2017, ça avait rameuté des candidats, disons, divers.
Et sur le plan politique, est-ce que le chef de l'État en sort fragilisé ?
Ah ben dans l'immédiat, l'image est mauvaise, évidemment. Mais en pratique, ça ne changera pas vraiment sa latitude d'action. Il a en effet toujours pu compter sur le soutien actif du Modem et du groupe Agir, des centristes dont certains membres sont au gouvernement. Mais c'est vrai qu'à plus long terme, et en particulier dans la perspective de 2022, ces défections signifient qu'Emmanuel Macron aura plus de mal à refaire ce qu'il appelle lui-même le coup du hold-up politique. La gauche et les écolos seront évidemment plus réticents.
Et les partants, ceux qui viennent de quitter La République En Marche, ils ont quel projet ?
Celui de fonder un groupe parlementaire, un neuvième au sein de l'Assemblée, record battu, ce qui, au passage, en dit long sur l'éparpillement de la vie politique française. Bon, il s'agira en réalité d'un micro-groupe de 17 membres, assez hétéroclite, lui aussi, un assemblage d'écologistes, de socialistes qui avaient tenté leur chance dans le sillage d'Emmanuel Macron, et puis d'autres survivants de tout ce que la gauche compte de mouvements opportunistes, parmi lesquels l'ancienne ministre Delphine Batteau, qui est de toutes les nouvelles aventures ou presque, et puis aussi Cédric Villani, en rupture, parisiano-macroniste.
Et leur objectif politique, il est donc de peser à gauche ?
Exactement, de faire valoir à l'extérieur du parti ce qu'ils n'ont pas pu faire en tant que députés En Marche. Bon, à vrai dire, si leur parcours est aussi chaotique que l'a été leur lancement, c'est mal parti. Car en se décidant maintenant, ils commettent trois erreurs. D'abord, un contretemps. Essayer d'exister en faisant dissidence au moment où le chef de l'État appelle à la concorde nationale, ça fait vraiment vieille politique. Ensuite, un contresens, puisque tous ces écolos et européens convaincus se décident à prendre le large au moment même où Emmanuel Macron décroche un joli label européen et engage avec l'Allemagne une relance verte. Troisième faute, enfin, quand on veut peser à gauche, eh bien, on ne jette pas son ancien parti dans les bras du centre et de la droite, car c'est par là, désormais, qu'Emmanuel Macron devra consolider ses futures majorités, pas à gauche. Voilà, ces soldats perdus du macronisme ont sûrement le sentiment d'avoir franchi le Rubicon avec beaucoup d'audace, mais pas de chance. C'est pour se retrouver dans une impasse.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant le journal de 8h.
Europe 1. Et juste avant 8h, nous serons rejoints par Mathieu Noël sur Europe 1. Tout de suite.